L'aspect social de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. Voici une conférence enregistrée le 15 octobre 2010 au musée Bonnat de Bayonne dans le cadre de l'Université du Temps Libre. L'aspect social de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. Vous entendrez deux interventions, celle du père Alain Pérez, lazariste, et celle de sœur Bernadette, fille de la Charité. L'aspect social de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul, le père Alain Pérez.
Nous allons essayer de réfléchir ensemble sur cette figure éminente qui est Saint Vincent, prêtre de la charité au service des pauvres, porter remède aux besoins spirituels et temporels. Bien, pour Vincent de Paul, la grandeur et la dignité de son sacerdoce consistent en une charité effective en faveur des nécessiteux. Il disait: servir les pauvres, c'est aller à Dieu. Et cela, il l'a appris de sa foi et de son expérience. Dès que Vincent entreprend de se laisser envahir par Dieu, il commence à porter sur le monde un nouveau regard totalement différent. Il acquiert ce qu'on pourrait appeler le sens évangélique du pauvre. Vincent, à la lumière de la foi, contemple désormais les pauvres comme s'il s'agissait d'icônes de Jésus-Christ, d'images du Seigneur, qui a voulu être pauvre et qui se manifeste à nous par l'intermédiaire des pauvres. Pour lui, le pauvre est dans le Christ, et le Christ est dans le pauvre. Pour Vincent, les pauvres sont le lieu privilégié où l'on rencontre Jésus-Christ. Dans le sacrement du pauvre, le Christ nous interpelle et nous questionne. Et le chemin de Dieu pour Vincent passe nécessairement par l'homme affamé de justice, de solidarité et qui réclame d'être traité avec dignité. À partir de sa foi et de son expérience, donc, Vincent découvre un nouveau sens aux pauvres. Grâce à cette expérience évangélique, il vit une spiritualité sacerdotale d'union à Dieu, union centrée non pas dans la contemplation ou l'adoration, ni dans les dignités, ni dans les privilèges, mais dans un service personnel apporté aux nécessiteux, dans un engagement social, dans une charité effective. L'expérience du pauvre devient primordiale dans son ministère de prêtre. Et c'est en elle, dans cette expérience, qu'il trouve le sens de son sacerdoce et de sa vie. Et cette découverte l'amène à constater que le pauvre peuple meurt de faim et se damne. Et alors il consacre toute sa vie à porter remède à ses misères, grâce à une évangélisation, un service que nous nommerions aujourd'hui libérateur, grâce à une promotion intégrale. Et à partir de ce moment, les pauvres sont pour Vincent son poids et sa douleur. Vincent, missionnaire des pauvres donc, apporte un message de libération, le même que celui proclamé par Jésus à Nazareth, en Saint-Luc, chapitre 4, versets 18-19. Mais il est aussi le bon Samaritain qui, confronté aux blessés abandonnés sur le bord de la route par toutes les injustices de la société, s'est approché d'eux en vue de leur donner en même temps que les remèdes corporels toute la tendresse de son cœur et toute l'espérance chrétienne. Il entend rendre effectif l'Évangile en se souciant et du corps, et de l'esprit, et de l'âme. Il suit ainsi l'exemple de Jésus-Christ, qui se souciait de tout l'homme et de tous les hommes, qui non seulement prêchait et enseignait, mais encore donnait à manger, soignait les malades, et qui défendait par-dessus tout, fût-ce le jour du sabbat, la dignité de la personne humaine. Peut-être que Vincent de Paul ne se rendit-il pas compte que par son action en faveur des pauvres, il se comportait en pionnier dans l'Église et que sa charité effective laisserait des traces profondes dans la société chrétienne. Ainsi, on peut dire que, réellement, Vincent de Paul fut, entre guillemets, un révolutionnaire de la charité. Il a semé des graines d'amour et de justice qui ont fructifié abondamment dans l'Église grâce à l'esprit qu'il a laissé à ses fils et à ses filles et à tous ceux qui s'inspirent de son charisme. La charité à laquelle l'Église identifie le charisme de Saint Vincent ne se réduit pas donc à un phénomène uniquement intérieur ou spirituel. Elle signifie bien plutôt aussi une réponse sociale et publique à travers laquelle le christianisme peut humaniser la société. La charité de Vincent est une charité qui engendre la justice. La charité ne consiste pas pour lui en une extase, mais en l'intervention d'un bras vigoureux pour rétablir chaque jour dans le monde un peu plus de justice. Vincent se sent toujours en dette à l'égard des pauvres, et il disait un jour « Il me semble que j'offenserais Dieu si je ne faisais pas tout mon possible pour les pauvres gens des champs. » Toute la vie de Vincent est pleine de ce qu'on nomme aujourd'hui des actions sociales. Mais il y en a quelques-unes qui sont spécialement significatives et nous allons en parler maintenant. Pour Vincent, la bonne nouvelle est essentiellement annonce d'une libération. Le passage typique de Luc qu'il annonce au chapitre 4, versets 18-19 est considéré par Saint Vincent comme le texte fondateur de sa congrégation, les Lazaristes. Il s'y réfère pour expliquer en quoi leur vocation est une continuation de celle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle pour les pauvres, c'est tout un programme. Allez annoncer à tous ceux qui sont enchaînés par l'ignorance, par le mal, par la misère, qu'ils sont en réalité libres, c'est vraiment un défi. Saint Vincent, guidé par les événements, justement, posera des actions sociales concrètes. Il souffre les souffrances des pauvres. Il s'efforce de les libérer, de trouver des solutions à leur misère par le moyen de la charité organisée. Il est attentif aux grandes multitudes affamées par les guerres. Il apporte consolation aux prisonniers et aux galériens grâce à une libération intérieure née de la foi. Il se plaît d'ailleurs à présenter comme exemple d'une action prophétique, une des premières filles de la charité, sœur Jeanne d'Allemagne. Et il disait un jour, en parlant de cette sœur, elle avait une grande liberté d'esprit en ce qui touchait à la gloire de Dieu. Un jour, apprenant que quelques personnes riches s'étaient dispensées de payer l'impôt pour surcharger les pauvres, elle leur dit librement que c'était contre la justice et que Dieu les jugerait pour ses abus. Et comme on lui faisait remarquer qu'elle parlait avec beaucoup d'audace, elle me répondit, dit Vincent, que lorsqu'il s'agissait de la gloire de Dieu et du bien des pauvres, il ne fallait pas avoir peur de la vérité. Sœur Jeanne d'Allemagne avait certainement appris à partir de l'exemple de Saint Vincent cette liberté d'esprit nécessaire à ceux qui veulent défendre les pauvres, surtout face aux puissants. Jean Anouilh, l'auteur des dialogues du film Monsieur Vincent, que vous connaissez sans doute, met cette idée sur les lèvres de Vincent aussitôt après sa rencontre avec Marguerite Nazo, la première fille de la charité. Il disait « Merci Seigneur de m'avoir envoyé cette pauvre fille. Elle a compris dans sa simplicité ce que moi je n'avais pas compris. C'est avec les pauvres que je sauverai les pauvres. » L'action sociale de Vincent nous interpelle aujourd'hui. Que nous lisions les événements comme des signes des temps. Que les pauvres évangélisent les pauvres. Que nous vivions avec eux une réelle fraternité. que nous souvenions que l'œuvre de libération s'adresse à tout l'homme et que cette œuvre doit être entreprise en Église, menée avec délicatesse, avec attention à la personne, avec prudence, vigilance, souci des détails, patience, bonté, sans peur des risques. Que cette action soit accompagnée du souci de la progression spirituelle et qu'on aide les pauvres à se mettre eux-mêmes au travail, que l'aumône soit réservée à qui ne peut travailler. C'est l'ensemble de ces valeurs qui constituent les bases de l'action sociale de Saint-Vincent. La véritable pensée de Saint-Vincent en matière de justice est synthétisée dans une phrase vraiment surprenante chez un homme du XVIIe siècle. Il disait un jour « Que Dieu nous accorde la grâce d'attendrir nos cœurs en faveur des misérables et de croire que, lorsque nous leur portons secours, c'est une œuvre de justice et non de miséricorde que nous accomplissons. » Et il disait encore « Il ne peut y avoir de charité en l'absence de justice. » Des pauvres, Vincent, poussé par l'exemple du Christ, a fait un choix radical auquel il a été fidèle toute sa vie. Vincent n'avait jamais entendu parler de ce que nous appelons aujourd'hui une option préférentielle mais non exclusive. Cependant, son option fut sérieuse, réelle. Il a choisi les pauvres pour toute sa vie. Si nous examinons attentivement les écrits et la vie de Saint-Vincent, en les replaçant dans leur contexte social, nous pouvons nous rendre compte qu'il a été un grand défenseur de la justice. Certains vont même jusqu'à affirmer que notre souci actuel de justice n'aurait pas atteint le développement social que nous constatons s'il n'avait pas germé d'abord dans le génie inventif de la charité de Saint-Vincent. Vincent fut pauvre et il a vu de très près les injustices dont souffraient les pauvres gens de la campagne, dans ses landes natales. C'est en partant de cette constatation que certains concluent que la charité vincentienne non seulement est organisée pour les pauvres, mais également par un pauvre. Vincent, pauvre, est né entre les pauvres. Et il savait bien que le sentiment de la dignité reste vif, même au milieu de la pauvreté. Il y a chez le pauvre aussi une dignité secrète et une certaine fierté qu'il nous faut respecter et faire respecter. De là, la nécessité d'être très délicat et très respectueux avec eux, surtout quand on leur distribue des aumônes nécessaires. Il disait « Je les connais par expérience et par naissance, car je suis le fils d'un pauvre laboureur et j'ai vécu à la campagne jusqu'à l'âge de 15 ans. » Donc, la charité vincentienne, avant de s'adresser aux pauvres, est une charité imaginée par un pauvre qui a souffert lui-même de l'injustice, qui a connu les mérites, les valeurs, la fierté, la dignité, souvent non reconnues, des pauvres. Le sein de la charité est aussi donc celui de la justice. Apparemment, Saint-Vincent insiste plus sur la charité que sur la justice. En réalité, il place la justice en premier lieu. Il nous demande de croire que lorsque nous portons secours aux pauvres, c'est la justice, encore une fois, et non la miséricorde que nous accomplissons. Et cela, il le dit quand ? 2 ans avant sa mort, alors qu'il était parvenu, grâce à sa foi et son expérience, à plus de clarté en tout et à un moment où il faisait la synthèse de sa vie. Vincent s'habitua à regarder la pauvreté en face et il chercha toujours à en comprendre les causes et à y porter les remèdes adaptés. Au milieu des calamités de la France de son époque, Vincent se transformera en véritable père de la patrie à cause de tout ce qu'il a fait en faveur de l'humanité dans tous les domaines. Les fameux droits de l'homme que la Révolution s'enorgueillissait d'avoir inventés déjà M. Vincent, silencieusement, et à partir de sa foi et de son expérience, les avait introduits peu à peu au plan social. Il les avait proposés comme fin à la charité de tous, les faisant reconnaître comme des droits évidents. Donnons quelques exemples. Le droit à la vie est entre tous un droit fondamental. Comme Vincent croyait au Dieu de la vie, il lutta sans se lasser, donnant de sa personne et cherchant des collaborateurs prêts à s'engager eux aussi en faveur de la vie, à s'attaquer à la mort des enfants. Il lutta pour porter remède à la faim des mendiants et des immigrants, à alléger les tourments des galériens et des prisonniers, à les libérer des moqueries dont ils étaient l'objet, à fournir éducation et travail. Nous connaissons bien l'action de Vincent qui concerne les enfants abandonnés. Nous connaissons ce qu'il a fait pour les paysans, la thérapie active qu'il inventa pour les anciens, l'attention qu'il porta aux malades et la manière dont il organisa l'aide à leur apporter, sa défense des galériens et des prisonniers, son respect pour tous les pauvres, spécialement les misérables. Nous pouvons affirmer que toute son activité se déroula en faveur de la vie et de la restauration de la dignité des pauvres, en faveur de la justice pour les pauvres. Le pauvre a droit à son pain quotidien, mais il meurt de faim à cause des guerres. Vincent organise les soupes populaires, la distribution de vivres et de vêtements. Le pauvre a droit à la santé, mais sa vie se passe au milieu des épidémies, de la peste et de maladies multiples. Vincent organise les hôpitaux et les soins à domicile. Les pauvres ont droit à une habitation, mais on les expulse de leurs terres et de leurs maisons au cours des guerres continuelles. Ils deviennent des vagabonds. Vincent organise en faveur des masses immenses de réfugiés, accueil et logement. Les pauvres ont droit à une vieillesse décente. Mais tout comme les enfants abandonnés, les anciens sont laissés à leur sort. Et c'est alors que Vincent organise les hospices, les gîtes où des filles de la charité s'occupent des vieillards avec tendresse et respect. Le pauvre a droit au travail. Les guerres laissaient les campagnes dévastées et leurs habitants sans secours. Restait la famine, le chômage, le pillage. Vincent s'efforce de remédier à tous ces maux, répondant dans l'immédiat aux nécessités qui ne peuvent attendre et fournissant déjà aux paysans les outils qui leur permettront de cultiver de nouveau les champs et de se procurer l'alimentation indispensable. Vincent envoyait ses missionnaires distribuer des semences, des charrues, des outils, des quenouilles pour filer et des instruments pour tisser, afin que les paysans puissent se suffire à eux-mêmes. Le pauvre a droit à l'éducation. Mais en ce temps-là, les analphabètes représentaient 80% de la population. Vincent et Louise de Marillac entreprirent donc de créer des écoles pour les enfants pauvres. Nous nous souvenons de Marguerite Nazot, la première fille de la charité, qui était une campagnarde qui gardait les vaches et qui a appris à lire toute seule et qui se dévoua par la suite à enseigner aux autres ce qu'elle avait appris. Du fait que la majorité des filles de la charité à l'époque de Vincent étaient des campagnardes, que beaucoup parmi elles ne savaient ni lire ni écrire, on les envoya aux Ursulines pour étudier et se rendre capables d'enseigner les enfants trouvés. Ainsi, dans un pays analphabète, dans sa grande majorité, les enfants que la société appelait les maudits de Dieu, ces enfants-là apprendront à lire et à écrire. Grâce à l'amour inventif de Vincent et à la solidarité aux efforts des filles de la charité. Et Vincent leur disait qu'elles devaient se sentir indignes d'un tel travail et devrait se montrer comme les anges de Dieu qui sont les vrais maîtres de ses enfants. Telle était leur dignité. La création d'ateliers devint une norme commune pour les confréries de la charité. C'est ce que nous pouvons lire dans les règlements des charités. De plus, les jeunes qui bénéficièrent de cette promotion dans ces ateliers qu'inventa Vincent avec Louise, les jeunes qui bénéficiaient de cette promotion devraient se présenter avec leurs parents et s'engager, par serment, à enseigner aux autres le métier qu'ils avaient appris. C'est vraiment là la communion et la participation. Vincent travaille aussi et de manière insistante en ce qui concerne la promotion intégrale, essayant de transformer les pauvres en personnes qui se suffisent à elles-mêmes grâce à leur propre travail. Il recommande de se préoccuper de l'organisation de la distribution des biens dans le but de manifester sa confiance en ses missionnaires. D'autre part, il convient de souligner que dans l'idée de Vincent, il faut s'occuper du pauvre parce qu'il est pauvre, peu importe qu'il soit protestant ou catholique. Vincent martèle aussi l'idée qu'il faut bien connaître qui sont les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent ni travailler ni chercher leur subsistance. C'est que la charité, pour être efficace, exige que l'on sache exactement quels sont les besoins de chaque lieu et de chaque personne. Il ne faut pas distribuer d'aide à ceux qui peuvent travailler, mais se contenter de leur fournir les outils nécessaires à leur travail. Aux hommes, on doit donner les instruments pour cultiver la terre, et aux femmes, les quenouilles et l'étoupe ou de la laine à filer. Il demande également qu'ils aient soin d'économiser pour pouvoir recommencer à travailler dès que la paix sera revenue. Un autre point très intéressant, Vincent demande qu'on envoie des rapports et des nouvelles pour pouvoir faire de la publicité et recueillir quelques fonds en faveur des pauvres. Mais Vincent ne se contentera pas de travailler intensément en vue de donner l'aumône à ceux qui réellement en avaient besoin et d'organiser la promotion des pauvres qui pouvaient travailler. Mais encore, il eut un rôle très important à son époque au niveau de ce qu'on peut appeler le niveau structurel. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais enfin bon. Quelques lignes vincentiennes, si vous voulez. Dans toutes ses œuvres sociales en faveur des nécessiteux, Vincent a laissé sa trace, et c'est de la sorte que naquit une méthode vincentienne de faire la charité et de servir les pauvres. Alors voilà quelques points. Partir de la réalité et percevoir dans la clameur des pauvres la voix de Dieu lui-même. Puis interpréter les événements comme des signes des temps. Partir donc d'une analyse de la réalité. Deuxième chose, vivre la compassion et la solidarité dans l'action sociale. Autrement dit, passer d'une charité affective de sentiment à une charité effective qui s'engage. Troisièmement, vivre ce service social dans la joie, la douceur, le respect, la cordialité et le dévouement. Vincent demande de vivre tout cela quand il s'agit du service des pauvres, parce que, disait-il, ils sont nos maîtres. Oui, mes sœurs, ils sont nos maîtres. C'est pourquoi il vous faut les traiter avec douceur et cordialité. Quatrième point, un contact personnel avec le pauvre. Tel fut le point final de la vie de Vincent. Un tel contact est irremplaçable, parce que dans la rencontre du pauvre, c'est le Christ que nous rencontrons. Enfin, amour affectif et effectif, Vincent possédait un sixième sens du pauvre qui le poussait à cet amour affectif. Vincent va au pauvre de façon singulière et toujours nouvelle, comme s'il s'agissait de l'unique pauvre dont il eut à s'occuper. Enfin, et pour terminer, il reste instructif pour nous de jeter un coup d'œil rapide sur la vie de Vincent et de découvrir en lui un prêtre qui évangélise les personnes non seulement dans leur dimension spirituelle, mais encore dans leur dimension matérielle. un prêtre qui a donné, qui a tenté de donner aux pauvres ce qui en théorie était leur droit et qui a su se mêler des problèmes de son temps en tant qu'artisan de paix. Selon une conception ambiguë de la sainteté, on serait tenté de dire « Pourquoi un saint se mêle-t-il de ces problèmes temporels que sont les droits de l'homme, les questions de justice, de guerre et de paix ?» C'est l'affaire des rois, des soldats, des politiciens, mais non des saints. Rien ne vaut pour corriger cette vision fausse de la sainteté que de nous souvenir du message qu'envoya à tout le peuple de Dieu le synode des évêques en 1985 qui disait, ce sont les évêques eux-mêmes qui disaient ceci, « L'Esprit nous amène à découvrir clairement que la sainteté n'est possible de nos jours qu'en passant par un engagement en matière de justice, par une solidarité avec les pauvres et les opprimés. » Vincent se trouva impliqué dans les problèmes de son temps. À partir de sa foi, non seulement il exerça une action au niveau individuel, mais il pratiqua ce que nous appelons aujourd'hui une charité politique ou la politique de la charité. C'est ainsi qu'il travailla pour la paix et la justice, pour le bien commun de la société.
Je vais donc vous parler de Louise de Marillac.
Sœur Bernadette, fille de la charité.
Née en 1591, décédée en 1660, mon entretien est surtout basé sur l'histoire de Louise et je la suivrai au long du développement de ses charges. Je me suis inspirée pour cela d'une thèse d'une fille de la charité américaine qu'elle a soutenue à Paris, Sainte Louise de Marillac, l'aspect social de son œuvre, entre 1655 et 1660. Non, pardon, 1955 et 1960. Et sur un texte de Monseigneur Calvet, recteur de l'Institut catholique, Sainte Louise, un portrait. Monseigneur Calvet disait en commençant son portrait, mon propos est de présenter une femme de chez nous qui a souffert plus que d'autres et réalisé une œuvre d'une portée sociale et religieuse immense dont les résultats s'affirment dans le présent. En effet, Louise de Marillac est fille d'une famille importante de France, comme on vous l'a dit au début, mais elle est fille naturelle, qui ne connaît pas sa mère. Elle est placée en pension chez une grande tante dominicaine. À 13 ans, son père, Louis de Marillac, meurt. À 22 ans, ses oncles la marient. Elle devient veuve à 34 ans, avec un garçon de 12 ans qui lui donne beaucoup de soucis. Je dirais, tout cela, c'est assez pour donner une sensibilité, voire une intuition particulière, pour sentir les situations avec leurs contours et leurs profondeurs. Louise de Marillac fait connaissance de Vincent de Paul au moment de son veuvage. Ce dernier la découvre peu à peu et lui demande des services pour les pauvres. C'est en 1629 qu'il lui propose de visiter les confréries des Dames de la Charité qui s'organisent un peu partout. Chaque fois que Vincent de Paul prêche une mission, il organise un groupe d'attention aux pauvres avec des Dames de la localité qu'il appelle confréries de la Charité. Et donc, il se rend compte que ces confréries ont besoin de soutien. Il demande à Louise de Marillac de devenir la visiteuse de ces groupes, de ces confréries. Monseigneur Calvet dira, c'est la première visiteuse sociale. Elle reçoit en partant de M. Vincent le règlement des confréries et un mémoire pour bien les visiter. Elle part accompagnée d'une servante ou d'une dame et s'en va sur les routes par coche, par charrette, voire à cheval. Pendant ses visites, elle réunit les membres des confréries. Elle observe, elle interroge, elle examine les comptes, elle encourage, elle redonne de l'élan. Entre autres, deux exemples, à Sannois, c'est elle qui écrit, elle se rend compte qu'on se décharge sur la trésorière pour préparer la nourriture pour les malades. Quand cette dernière est fatiguée, elle envoie un peu d'argent aux malades. Mais Louise déplore cette situation parce qu'il n'y a plus le contact personnel. Et le malade, se nourrira-t-il avec cet argent? Ou l'emploiera-t-il pour autre chose? Pour Louise, ce n'est plus le vrai service. Dans un autre endroit, à Herblay, il n'y a pas de registre. Donc, on risque d'oublier ou de négliger quelqu'un des pauvres. Dans ses visites aussi, elle met la main à la pâte. Elle visite personnellement les pauvres à domicile. Elle soigne les malades. Elle assemble les jeunes filles. Elle est attirée par ceux qui vivent la marginalisation, le rejet ou l'exclusion. Au cours de ses visites, elle découvre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'ignorance des petites filles des champs, ce qui l'incite à établir des maîtresses de village. Et c'est une originalité de son œuvre. Et même si Richelieu a écrit dans son testament que cela était inutile, voire même dangereux, l'instruction risquant de détourner les filles de leur soumission domestique, elle s'efforce de trouver une fille ou une femme apte à instruire les enfants, puis elle la fait agréer par le curé du village. Mais elle n'agit pas seulement en privé, elle fait une demande officielle pour tenir école. Et elle fait cette demande au chantre de Notre-Dame de Paris. Il répond: nous donnons la facilité de tenir les écoles, à la charge d'enseigner les petites filles pauvres seulement, et non d'autres, et de les élever dans les bonnes mœurs, lettres grammaticales et autres pieux et honnêtes exercices. La réponse est limitative, mais elle est positive, et cela suffit. Monseigneur Calvet note que cette réponse marque la date de la formation des écoles primaires gratuites dans le diocèse de Paris. Alors, dès le début, Louise aura la préoccupation de former les maîtresses des petites filles. Il faut d'abord que les jeunes femmes sachent lire et écrire, puis qu'elles reçoivent une formation pédagogique. Plusieurs, donc, seront envoyées chez les Ursulines. Puis, au fur et à mesure de l'installation des sœurs des servantes des malades dans les villages, chacune sera invitée à aller au-devant des filles qui ne peuvent aller à l'école, faute de temps ou faute de possibilités. Le règlement porte l'encouragement suivant: prendre les bergères, les vachères, au temps et au lieu où elles les rencontrent, non seulement dans les villages, mais encore dans les champs et chemins faisants. Enseigner, soit à la porte de la maison ou par le chemin. Une manière d'alphabétiser le peuple. Et Vincent encouragera cette action qui n'était pas facile. Il dit: la ville est presque toute fournie de sœurs. Il est donc juste que vous alliez travailler aux champs. Et il écrivait à Louise de Marillac: il faut apprendre aux sœurs à lire et à travailler de l'aiguille afin qu'elles puissent travailler à la campagne. L'école des pauvres pour Louise est une forme de charité. Assister l'indigent, c'est essayer de lui apporter ce qui lui manque, tout ce qui manque à son esprit aussi bien qu'à son corps. Elle était visiteuse des confréries, visiteuse sociale. Elle va devenir infirmière à domicile et formatrice des infirmières. En 1633, elle débute la formation de servante, employée des confréries de la charité, pour que les pauvres puissent rester dans leur maison, dans leur famille. Dans les confréries de Paris particulièrement, les bonnes volontés des dames se lassaient parfois. Les femmes mariées étaient retenues par leur ménage. Les grandes dames ne pouvaient s'astreindre à porter la marmite à travers la ville et confiaient ce soin à leurs servantes. Les malades n'étaient pas toujours visités. D'autres confréries souhaitent faire venir les malades éloignés dans une sorte de petit hôpital, ce qui éviterait de parcourir de longues distances à pied ou à dos de mulet. Louise demande aux sœurs de refuser, avec beaucoup d'humilité, par respect de la liberté du malade. Que deviendra, écrit-elle, l'exercice des dames de la charité si on contraint les malades à se ranger à l'hôpital? Vous verrez que les pauvres honteux seront délaissés du secours que leur apporte la nourriture apprêtée et les remèdes. Et le peu d'argent qu'on leur donne ne sera point employé à leurs nécessités. Nous sommes obligés, tant que nous le pouvons, d'empêcher cela par de très humbles et charitables remontrances. Ce travail auprès des malades démunis, souvent délaissés au fond de leur taudis ou de leur pauvre chaumière, est exigeant, rude. Louise insiste pour que les servantes aillent malgré tout rencontrer les malades chez eux et qu'elles soient attentives à ceux qui n'osent demander un secours. Que les servantes respectent le malade, le pauvre, supposait pour Louise formation, accompagnement, continuité, durabilité. Une formation rudimentaire d'abord, plus développée ensuite, s'établit sous la surveillance de Louise, qui a dû sûrement apprendre elle-même. Celle-ci comprend les acquisitions d'une infirmière du XVIe siècle qui ne peuvent se comparer avec nos diplômes actuels. C'était surtout saignée, lavement, cataplasme, tisane. Un monsieur Gaudel dit que c'est l'ABC de la thérapeutique officielle. La correspondance de Louise comprend des observations, des exigences, des apprentissages pour personnes aptes à les assumer correctement et avec sécurité. Un ou deux exemples. Une prescription contre l'épidémie pour les sœurs soignant les soldats à Calais. Qu'on fasse bouillir quelques racines de chicorée avec un peu d'épine vinette. C'est un remède bien prompt, mais fâcheux à boire. Elle sait aussi, Louise, former, et elle connaît les personnes qui peuvent en former d'autres. Elle dit, elle écrit, « Je vous prie, ma sœur, d'apprendre à saigner à notre sœur, mais surtout, enseignez bien le danger des artères, des nerfs et autres. » Et souvenez-vous que s'il vous arrivait d'avoir ouvert une artère, d'en tirer une grande quantité de sang et de mettre un denier dans la compresse pour faire la ligature. Elle demande de former, mais avec la sécurité nécessaire. Je ne crois pas que vous deviez apprendre à notre sœur, ni souffrir qu'elle apprenne de quelqu'un d'autre à saigner. Elle n'est pas capable de cela et je ne voudrais pas exposer personne à son essai. Donc, ainsi, les commençantes apprennent en secondant les anciennes. Elles s'initient petit à petit au contact du malade. Elles apprennent la valeur d'être supportantes, cordiales, douces, respectueuses. Louise de Marillac insiste sur le respect, voire l'obéissance, aussi bien aux pauvres qu'aux médecins. Aux pauvres parce qu'ils sont nos maîtres, et aux médecins, que ce que vous avez appris des médecins ne vous rende pas trop hardi, ne vous fasse pas faire les entendus pour ne pas écouter les ordonnances et les ordres. Que savons-nous qui ne nous ait été enseigné ? Respect, obéissance, modestie, pour que les malades soient vraiment servis jusqu'au bout dans la dignité. Et les conseils suivants reviennent très souvent dans sa correspondance. Pour ce qui est de votre conduite vers les malades, oh, qu'elle ne soit pas par manière d'acquis, mais très affectionnée, leur parlant et les servant avec cœur, vous informant très particulièrement de leurs besoins, leur parlant avec douceur et compassion, leur procurant le secours de leurs nécessités sans être trop importune ni empressée, et ne sortant jamais d'avec un pauvre sans lui avoir dit un bon mot. Elle est exigeante pour la formation, elle l'est bien plus encore pour les conditions d'admission de ces servantes des malades. Pour Louise, devenir servante des malades et des pauvres représentait donc une tâche rude. C'était autre chose qu'une visite hâtive ou occasionnelle, accompagnée de quelques soins. C'était être prête à donner, à recevoir des enseignements, à les assimiler, à rester jour et nuit au service des malades, à être prête à aller à divers endroits, aux heures précises, quelque temps qu'il fasse, prête à aller aussi à la recherche des malades dans les endroits nouveaux. Servir, supporter une vie dure avec beaucoup de travail matériel, peu de satisfaction humaine, d'où la nécessité d'être difficile sur les qualités d'âme et la vigueur physique. Elle écrivait au vicaire général d'Angers, « S'il vous plaît, prendre garde que ce ne soit point le désir de voir Paris qui les fasse désirer venir, ni le besoin qu'elles ont d'assurer leur vie. Aussi qu'elles soient bien fortes et saines. » Et au fur et à mesure des arrivées, des essais, des départs, des retours chez soi, les conditions d'admission se précisaient. Il faut connaître la personne, la vie, les mœurs, l'âge, avec les possibilités de ce moment-là. En 1644, elle écrit « Il nous en faut de très propres, tant pour les forces du corps que celles de l'esprit. Informez-vous bien exactement. Pour ce qui est de ces bonnes filles, éprouvez-les beaucoup, tant pour le corps que pour l'esprit, car vous savez que la fragilité de l'un et de l'autre ne nous est pas propre. Mandez-nous de quelle maison elles sont, et vous informez bien, je vous prie, de la conduite de leur vie. Il faut savoir tout cela avant de vous donner réponse. » Cette manière de voir était partagée avec M. Vincent, et aucune admission n'était définitive avant d'avoir été décidée en commun. Nous pourrions trouver encore de multiples exemples dans les lettres de l'un et de l'autre. Ces exigences étaient importantes car lancées dans la rue des jeunes femmes, de province surtout, qui circulaient librement, soignant les malades à domicile et secourant toutes sortes de misères, n'étaient pas courants pour l'opinion publique. Il fallait donc des femmes fortes et équilibrées. Visiteuse sociale, elle devient mère et organisatrice avec les enfants trouvés dès 1638. Louise de Marillac faisait partie du groupe des dames qui visitaient les malades de l'Hôtel Dieu dès 1634 environ. Elle avait pu voir la situation des enfants reçus à l'hôpital, des enfants de famille normale, et aussi la difficulté, voire le rejet des enfants trouvés. Il fallait vaincre un préjugé social contre les bâtards pour s'inquiéter de ces enfants trouvés. Mais s'en occuper, pour Vincent de Paul et Louise de Marillac, était une nécessité qui marqua ce jour-là un progrès social. Mais comment faire ? Le 1er janvier 1638, l'année de naissance de Louis XIV, je crois, décision est prise d'accueillir quelques enfants. Et tous, comment faire ? Un groupe se trouve déjà à la maison de Louise de Marillac, au village de la Chapelle. Un autre vit dans une maison à la rue des Boulangers. Les logements ne sont plus assez grands. Alors, Louise entrevoit une autre possibilité, les confier à des familles, à la campagne. Le séjour au grand air serait bénéfique pour eux. Et 2 mois après, elle envoie des enfants en nourrice. Elle note avec précision le nom de l'enfant et de ses parents. Donc, il ne suffisait pas à Louise de Marillac d'arracher un enfant à la mort. Il fallait encore lui donner une bonne vie et en faire un citoyen utile à lui-même et à la société. Pour cela, elle exerça une surveillance attentive sur les nourrices qui se présentaient. Ces dernières devaient présenter un certificat de moralité, un certificat médical qui donnait leur âge et la qualité de leur lait, ainsi que leur état général. Le certificat devait encore porter la signature du curé, pour dire si elles sont mariées, si leur enfant est vivant ou mort. Quand elles étaient acceptées, les nourrices recevaient en contrepartie aussi une feuille imprimée qu'elles devaient présenter au curé. Ce certificat portait le nom de l'enfant, l'âge, et chaque fois qu'elles voulaient recevoir leur gage, elles devaient aller le faire tester par monsieur le curé pour dire si l'enfant était en bonne santé ou décédé. Cette façon consciencieuse qui préside au choix des nourrices nous fait supposer, dit Margaret Flinton, être en présence du type primitif de règlement d'une maternité du XXe siècle ou du contrôle des assurances sociales. Mais ça ne suffisait pas pour Louise. Placer des enfants en province, il fallait savoir ce qu'ils devenaient. Donc elle a instauré les visites. Un rapport publié par un monsieur Lallemand en 1885, cite qu'il y a en Picardie et Normandie 632 enfants placés. 10 ont été négligés par les nourrices et ont été retirés et placés dans d'autres familles. Ces visites sont assurées par des dames des confréries de la Charité. Ensuite, Sainte Louise prévoyante enverra une fille de la Charité avec une dame. Il y aura même un frère de Saint-Lazare, de Saint-Vincent-de-Paul, qui prendra quelques mois pour faire le tour des enfants à visiter. Chaque personne qui visitait recevait une fiche, le nom des enfants, le nom de la nourrice, et avec des colonnes libres pour qu'elles puissent inscrire leurs remarques. Et en même temps, Louise de Marillac enverra des lettres quand elle pourra rejoindre les visiteuses, et elle dit « Ne manquez pas, je vous prie, de renvoyer tous les enfants que vous trouverez qui marchent bien tout seuls, et de faire sevrer ceux qui sont au-dessus de 18 mois. Ces enfants sevrés sont placés en divers lieux à Paris, et finalement, les dames de la Charité de Paris obtiendront pour les loger le château de Bicêtre. Plus tard, Vincent de Paul donnera 13 petites maisons qui sont aux environs de Saint-Lazare, qui seront comme un genre de crèche-pavillon du XXe siècle. Dans chacun de ces lieux, Louise insiste toujours sur la propreté, l'hygiène de la maison et des pièces appropriées pour que les enfants aient l'air nécessaire. Elle fera attention à l'éducation morale, bien sûr, mais aussi à la technique. Qu'il y ait une maîtresse adaptée à l'âge. Qu'il y ait un frère boulanger, par exemple, de Saint-Lazare pour apprendre à faire le pain. Et un ecclésiastique pour instruire les garçons. Et quand ils auront 12-13 ans, il faudra prévoir un apprentissage. Et un apprentissage selon leur inclination et leur désir. En plus de tous ces détails, nous trouvons aussi dans ces lettres la nécessité d'être exact dans la comptabilité et dans le règlement d'admission des enfants. On ne peut admettre un enfant sans l'ordre des commissaires chargés de discerner. Et Vincent de Paul écrit un jour à M. de Gondy, « Il est défendu à ceux qui sont chargés du soin des enfants de les recevoir sans l'ordre des commissaires. » Et nous faisons conscience d'en user autrement. Le secours aux enfants trouvés ne date pas de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Mais ils ont commencé à développer une institution organisée et respectueuse de la dignité des nourrices comme des enfants. Et ce fut un progrès social pour ce siècle-là. On pourrait même dire, écrit Mgr Calvet, que c'est l'honneur de Saint-Vincent et Louise de Marillac d'avoir entrepris une lutte pratique et créé un état d'esprit d'où sont venus peu à peu des remèdes. C'est vers 1650, après 20 ans de travail, que les difficultés avec les enfants trouvés furent moins lourdes. Et à ce moment-là, Louise de Marillac prit encore en charge des demandes qui arrivaient soit de Vincent de Paul, soit du Grand Bureau. Vincent de Paul lui demanda d'être au service des galériens. Elle manifesta à ce moment-là son sens du concret et sa tendresse pour ces personnes. Elle a dû avoir le souci d'installer et d'accompagner les filles qui allaient servir les prisonniers. Elle connaissait cette situation puisque elle, depuis sa jeunesse, visitait les prisonniers, car elle passait régulièrement à côté de la maison du Faubourg Saint-Honoré. Elle savait qu'il fallait des femmes fortes, capables de servir avec patience, de recevoir les insultes, les mépris, et aptes à servir discrètement. Les sœurs avaient la charge d'accueillir les arrivants, d'enlever leurs habits pourris, de leur mettre du linge propre, de soigner les plaies, de nettoyer les paillasses, de leur faire à manger, et c'est précisé, de la soupe et de la viande, parce qu'autrement ils n'avaient que du pain et de l'eau. Avec ses servantes, donc, Louise améliora la nourriture, l'hygiène et le respect des personnes. Une sœur, qui s'appelle Barbangibou, reçoit un jour en pleine figure la marmite de soupe qu'elle s'apprête à servir. L'affront reçu ne l'empêche pas de s'interposer entre les gardes prêts à frapper et le galérien qui avait renversé la marmite. D'autres sœurs seront prises avec les gardes qui leur demandent de dire ceux les prisonniers difficiles et violents pour les envoyer aux galères. Les sœurs refusent. Une dame demande qu'on lui fasse rapport sur ceux qu'on pourrait sortir de prison. C'est Louise qui refuse. Ceux qui resteront pour la chaîne, dit-elle, croiront que c'est les sœurs qui sont la cause du choix. Pour élargir le cercle des sœurs à la prison, Louise demande à quelques personnes de venir accompagner les sœurs quand elles distribuent la nourriture. Et cette présence a parfois arrêté et la violence et l'insolence. La question qui est face à ce travail rude, comment ces femmes ont-elles supporté cette vie de service pénible et rebutant? Parce que les exemples cités, c'est trois exemples, mais il y en a des quantités. Marguerite Fleeton dit que la sœur Barbe s'est interposée 6 ou 7 fois entre les gardes et le prisonnier pour qu'il ne se soit pas battu. Alors, un texte de Louise de Marillac peut nous donner où elle puisait leur force. « C'est peu de choses, dit Louise, de porter les marmites, si vous ne pouvez proposer Jésus-Christ comme l'objet de votre service. Oui, si nous nous éloignons tant soit peu de la pensée que les pauvres sont les membres de Jésus-Christ, infailliblement, ce nous sera un sujet de diminuer l'amour et la douceur que nous devons conserver pour eux. » Et Vincent de Paul ne cessera de dire que le but est de faire ce que Jésus-Christ a fait. La contemplation de Jésus-Christ et l'absolue confiance qu'il est avec eux sera donc leur force. Une autre demande vint vers Louise de Marillac en 1653, les personnes âgées dans la misère ou les mendiants. Paris, comme d'autres villes, voulait les enfermer. On ne voulait plus voir les mendiants envahir les rues. Un jour, Vincent reçut un don et Louise proposa qu'on commençât petitement. Elle proposa qu'on rencontre 20 femmes et 20 hommes célibataires, car les autres ont leur famille pour s'occuper d'eux. Il faut leur proposer d'être rassemblés en une maison où ils pourront travailler selon leurs forces et en recevoir une rétribution et participer ainsi à leur subsistance. Ils pourront faire les travaux qu'ils connaissent ou apprendre un petit métier. Les maîtres d'apprentissage seront bénévoles ou rétribués selon leur situation. Chaque ouvrier, donc, est nourri, logé. Il reçoit le quart du prix convenu pour son travail et il ne paye que le vin qu'il boit. Il y en a l'un ou l'autre qui se sont ruinés, paraît-il. Mais la bonne renommée de la maison, qui s'appelle Hospice du nom de Jésus, attirait des clients et remplissait une liste d'attente qui faisait que Vincent de Paul devait refuser des gens et que ça a donné à d'autres l'idée de créer des œuvres semblables. Un dernier fleuron à la couronne de Louise de Marillac, c'est le service des aliénés. Dans ce service, elle a surtout insisté sur la patience, la bonté envers ces personnes et le détail pratique. Je ne sais si vous avez la coutume de laver les mains des pauvres. Si vous ne le faites pas, je vous prie de vous y habituer. Et s'il vous plaît, que l'on tienne des serviettes au lit des malades et proprement pour qu'ils soient à l'aise. Ainsi, Louise de Marillac, à 69 ans, laisse à la postérité des jeunes femmes formées pour visiter, nourrir et soigner les malades à domicile. Des maîtresses pour des écoles gratuites pour les filles pauvres, une organisation réfléchie et durable pour les enfants trouvés, un esprit de bienveillance et de respect pour les galériens, un but à la vie pour les personnes âgées et seules, le respect et la délicatesse pour les insensés, une compagnie de jeunes femmes prises dans le milieu des défavorisés de ce temps-là pour soigner et servir les plus pauvres, et en faire un groupe de consacrés à Dieu en dehors du cloître. Ce n'était pas une petite affaire. Cette femme, Louise de Marillac, voulait être religieuse. On ne l'accepta pas à cause de la fragilité de sa santé. Une lumière intérieure, dans une période de fort doute sur Dieu, lui donna l'espérance et l'assurance qu'elle serait un jour en communauté, allant et venant, dit-elle, c'est-à-dire non en un cloître. Et Vincent de Paul paraphrasera un jour cette situation. Elles considéreront qu'elles ne sont pas religieuses, mais à raison qu'elles sont plus exposées que les religieuses à la clôture, elles auront pour monastère les maisons des malades et celles où réside la supérieure. Pour cellule, une chambre de louage. Pour chapelle, l'église paroissiale. Pour cloître, les rues de la ville. pour clôture l'obéissance, ne devant aller que chez les malades et aux lieux nécessaires pour leur service, pour grille, la crainte de Dieu, pour voile, la sainte modestie. Ainsi, pour Louise, la dignité de l'homme, sa première priorité, pouvait être respectée. Et elle qui s'est engagée dans une action qui se montre respectueuse de la personne, qui apporte une aide efficace, qui comporte des initiatives originales, qui nécessite l'acquisition de réelles compétences et qui requiert la mise en place d'un groupe de soutien. Et cette manière de vivre s'étend encore aujourd'hui dans 93 pays des 5 continents, toujours selon l'esprit donné par Vincent de Paul.
L'aspect social de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul, vous venez de suivre l'intervention du père Alain Pérez, lazariste, et l'intervention de sœur Bernadette, fille de la Charité, une conférence enregistrée le 15 octobre 2010 au musée Bonnat dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne.